Que Dieu vous bénisse. Il est bon. En tout temps. J'espère qu'il est bon pour vous. C'est un plaisir pour Darlene et moi d'être de nouveau parmi vous. Un des bénéfices de ce rôle que je porte depuis un an, c'est de me permettre de participer à les assemblées des différentes de nos églises et aussi, par la grâce de Dieu, d'apporter un message. Avant d'aller plus loin, je vous invite à courber vos têtes et vos cœurs encore. Nous avons entendu la parole de Dieu, celui qui l'a inspirée, celui qui habite, ceux d'entre nous qui croient, veut nous enseigner. Et on ne veut pas manquer cette occasion. Ô Père éternel, nous avons prié pour les autres, mais maintenant nous voulons nous courber devant toi, toi qui sondes les cœurs, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu connais la fin comme le début. Il n'y a rien dans nos vies qui te surprenne. Rien qui te choque, car ton amour est infini. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Donc, tu n'es pas prête à arrêter de nous aimer maintenant. Mais nous, Seigneur, nous vivons dans une autre réalité. Et parfois, nous avons la misère de se regarder dans le miroir à cause des fardeaux, des perceptions qui nous font mal. Alors, dans ce moment, Seigneur, je te demande de nous permettre, chacun de nous, de déposer à tes pieds nos vies, nos soucis, nos inquiétudes, même la semaine qui nous attend. Et dans ces quelques moments dans ta sainte présence, que nos cœurs soient attentifs. Oui, Seigneur, viens illuminer notre intelligence, viens ouvrir les oreilles de notre entendement. Déjà, tu as parlé, et il se peut que nous avons déjà reçu une parole pour nous. Mais Seigneur, je prie pour ton onction sur cette parole que tu as mise sur mon cœur et sur nos cœurs que nous puissions recevoir de toi une parole de vie qui nous est appropriée. Là où nous en sommes dans notre pèlerinage. Alors Seigneur, comme Samuel dans l'Ancien Testament, nous te disons, parle Seigneur, car tes serviteurs, tes servantes sont à l'écoute. Amen. Nos attentes personnelles ont tendance d'obscurcir notre vision. Souvent, nous portons des lunettes d'une vision qui nous empêche de voir les choses. Et quand la réalité heurte notre concept, nous vivons des crises. Je me rappelle des premiers jours de ma relation personnelle avec Dieu. J'étais appelé au ministère, puis ça a pris 10 ans avant que j'aie été introduit au ministère, celui qui m'a appelé. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'est comme je flottais au-dessus de la terre. Je vivais comme dans le Nouveau Testament. Quand je trouvais quelqu'un qui croyait, c'était excitant. Puis Dieu m'a rappelé, un mois après ma conversion, que j'étais appelé au ministère. Donc, dans l'espace de quelques mois, je me trouvais au séminaire, sur le campus avec le collège biblique. Et j'avais hâte. Je me suis dit, « Oh, ça sera fantastique. Je vais être à l'école avec les saints, les saintes, les personnes qui veulent servir le Seigneur. Ça va être comme le ciel. » Je vous dis, ça n'a pas pris une semaine avant que ça pète. Que j'ai réalisé qu'on est des saints, notre cœur est dans le ciel, mais les pieds sont pas mal embrouillés. Heureusement, j'avais des frères et sœurs aînés dans le Seigneur qui m'a calmé. Michael, prends ça. Et pour moi, le bercail de ma vie spirituelle était le séminaire. Je ne suis pas rapide. Ça m'a pris 6 ans pour faire les 3. Mais avec Darlene, on a introduit 4 enfants au monde entre-temps. Donc, on en a 6 maintenant. Donc ça. Puis on attend notre 18e petit enfant cette année. Donc, cette histoire, vous savez, ça date de quelques moments. Nous pouvons lire la Bible avec des yeux qui font une aurore autour des personnages. Et ça, c'est de mal lire la Bible, parce que la Bible, Dieu l'a fait écrire pour nous révéler les réalités. C'est le livre qui nous révèle son cœur, nos cœurs, et le besoin que nous avons de lui rencontrer pour être restaurés à son plan original. Donc, les personnages dans la Bible sont pleins de défauts, parce qu'il y a seul qui est parfait. Les disciples vivaient à une époque où l'attente du Messie était aiguë. Ça faisait presque plus que 4 siècles, à l'exception de quelques années seules, que Israël, le peuple d'Israël, vivait sous le joug des étrangers. Et ce dernier joug était le pire. Les Romains, avec leur force militaire, les Romains trouvaient que Israël, Palestine, était la pire place dans l'Empire, parce que les gens étaient toujours en train de se révolter. Puis, la réponse des Romains, c'est de l'écraser des révoltes avec violence, avec sévérité. Et le peuple soupirait. Le moment était prêt. Tous les prophéties de l'Ancien Testament, eux autres, ils voyaient que le roi va venir, le Messie va venir, et il va donner le botté aux Romains, et on va être à notre place encore. On sait qu'ils ont manqué toute une partie des prophéties qui parlaient de le Messie qui devrait souffrir. Ce n'était pas dans leur optique. Et mes chers frères et sœurs, les apôtres, les disciples, faisaient partie de ce groupe. Et c'est intéressant, on peut vraiment dire, ça aurait été fantastique d'être à l'école biblique, la meilleure, l'école biblique de Jésus. Parmi ces 12 et plus, il y avait des centaines qui étaient avec lui. Vivre avec lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de le voir, de manger avec, de l'écouter, de voir à l'œuvre, combien ça a dû être merveilleux pour eux. Combien leurs conversations ont dû être enrichies. Mais c'est intéressant, la Bible nous laisse entendre quel était le sujet favori des apôtres lorsqu'ils étaient hors classe, lorsque ce n'était pas en dialogue avec le professeur. Et dans ce contexte ici, on le voit une fois, mais je vais l'emmener à 2 autres textes pour nous montrer que ce n'est pas le seul endroit où la question qui préoccupait les apôtres, avec leur attente du royaume, avec leur relation avec Christ maintenant, leurs attentes humaines se transféraient dans le contexte spirituel. Puis on trouve en Marc chapitre 9 d'abord, versets 34 et 35, Jésus entrait, ils descendaient de Césarée Philippe, là où Jésus avait pris sur la montagne Pierre, Jean, Jacques, qui l'ont témoigné, transfiguré devant leurs yeux. Ils ont vu Jésus glorifié. Ils sont descendus, puis là, il y avait l'échange où les apôtres, qui venaient justement de faire leur tournée, chassant des démons, tout ça, n'étaient pas capables de chasser le démon d'un homme. Puis, ils ont appris la leçon que ça prenait une intensité dans la prière. Puis, en quittant ce lieu-là, en rentrant à la maison à Capernaum, Jésus a fait part de ce qu'ils avaient appris sur la montagne dans sa conversation avec Moïse et Élie, que maintenant, il devrait se diriger vers sa mort, que le Fils de l'homme devrait être livré et mis à mort. Puis, il dévançait. Merci. Puis les disciples étaient dans une grande conversation. Ils arrivent à la maison et Marc nous dit que Jésus leur demandait, « Qu'est-ce que vous discutiez en ce chemin? » Le silence était tellement épais qu'on l'a pu couper avec un couteau. Pourquoi? Parce que Marc nous dit, « Parce qu'ils se disputaient entre eux autres, qui d'entre eux serait le plus grand dans le royaume? » Ce n'est pas le seul endroit. Luc nous parle, en Luc 22, dans la chambre haute, la dernière soirée que Jésus passait avec ses apôtres. Il venait de leur raconter que l'un d'entre vous me trahira. Et vous savez comment c'est déroulé. Est-ce moi? Ils ont passé ça. Puis tout de suite, Luc nous dit, Luc 22, 24, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Lequel entre eux était le plus grand. Puis dans notre texte aujourd'hui, on le voit qu'ils étaient encore sur le chemin, encore dans un contexte similaire, la foule des disciples autour d'eux autres, mais cette fois-ci, il y a une différence. Deux des disciples, Jean et Jacques, donc la mère, était ma tante de Jésus, a demandé une faveur à leur maman. Et elle s'est avancée, et on a lu le texte, elle a demandé au Seigneur, dans son royaume, de donner à ce que ses fils qui sont là, l'une s'assied à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc, il faut comprendre dans le contexte de l'Antiquité, lorsque un roi ou quelqu'un d'honneur était dans une fête, ou le roi assis sur son trône, la personne à droite est la deuxième plus importante, pas seulement dans la salle, mais peut-être dans le royaume, et celui à la gauche est le troisième. Donc, en effet, ce que Jean et Jacques faisaient poser par leur maman, c'est que eux autres soient accordés les positions les plus grandes dans le royaume. Puis Jésus leur répond que, en fin de compte, ce n'est pas à lui. Il leur donne le défi, est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe de souffrance? Ils ont dit, oui, on est capable. On ne sait pas ce que c'est, on est capable. Mais après ça, il dit, ce n'est pas à moi de savoir. Seul Dieu sait. Puis là-dessus, on le voit dans notre texte que les 10 autres, en entendant cela, ils se sont mis en colère contre les deux. Donc, si je ne vous ai pas parlé du fait que c'était constamment leur conversation entre eux autres, qui était le plus grand, on n'aurait pas dû dire qu'ils étaient choqués que Jean et Jacques ont pu être si charnels. Mais ce n'est pas le cas. Ils étaient choqués parce que Jean et Jacques avaient un avantage. Vous savez, ce n'est pas ce que vous savez et ce que vous faites dans la vie, c'est ce qui vous connaissez. Êtes-vous choqués avec ça? Vous savez que si vous entrez dans le ciel, ce n'est pas parce que ce que vous faites, ce que vous savez, c'est parce que vous connaissez la bonne personne. Soyez pas choqués, c'est relationnel. Mais pour eux autres, les 10 autres, ils étaient choqués parce qu'ils disent, ça y est, Jean et Jacques ont gagné. Puis il y avait une tension. Puis Jésus s'est servi de ce moment de tension d'amener un enseignement archi-important pour eux sur place, mais pour nous dans l'Église aujourd'hui. Un principe du royaume qu'il ne faut pas passer à côté si nous allons vivre la bénédiction de Dieu. Et ça parle du leadership. Et comme le titre, le leader comme serviteur. Donc, je ne suis pas trop familier. OK. Je me dévance. Est-ce que je peux reculer? OK. Je ne veux pas que vous soyez distrait. J'ai travaillé fort pour... Francis et Lee, ce n'est pas la première fois qu'ils voient le message, mais ils vont voir un PowerPoint aujourd'hui. Francis et Lee. Bon. Mais Jésus les appelle à lui, puis il dit trois choses au sujet du leadership dans le royaume dont nous avons besoin de nous saisir ce matin. Tout d'abord, il va dire que le leadership dans le royaume n'est pas comme le monde. Et c'est ça que nous voyons dans les versets 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. » Vous savez, c'est comme c'est de seconde nature, on sait, c'est comme ça dans le monde. Puis c'est un peu comme le jeu que les enfants, si on laisse les enfants tout seuls, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, là, parce qu'il y a des gens qui accusent leurs voisins si les enfants jouent tout seuls. Mais si on laisse les enfants jouer tout seuls, on va trouver la nature humaine, ça sort. Chez nous, là, surtout sur les cours d'école, s'il y avait un petit monceau, un tas de neige, le jeu naturel dans la cour d'école, c'était roi de la montagne. Hein? Vous savez comment ça se marche? Il faut tasser tout le monde et vous êtes le seul qui est dernier, vous êtes le roi de la montagne. On veut être le plus grand. C'est dans notre nature. Et pour être plus grand, si Dieu n'est pas dans le portrait, il faut tasser les autres. Il faut abaisser les autres. Il faut écraser les autres. Lorsque vous arrivez dans une conversation, que quelqu'un est en train de louanger les œuvres de quelqu'un, quelle est votre tendance? On veut prendre le spotlight et mettre sur nous. Hey, moi, j'ai une histoire. Hein? On n'est pas à l'aise humainement que le focus soit sur quelqu'un d'autre. Ça témoigne quelque chose dans notre nature. Lorsque Adam et Ève ont tassé Dieu, la malédiction, c'est maintenant qu'il faut qu'on se débrouille pour être quelqu'un. Et tout le monde devient concurrent. Puis Jésus dit, vous savez, c'est la nature humaine que dans le monde, ceux qui sont en autorité tyrannisent. J'aime ça, vraiment, ça donne l'impact. Ils dominent sur les autres. Et même les fonctionnaires, les gens qui ne sont pas sur le haut du tas, qui sont là pour servir les gens, qui sont eux autres aussi dominent. C'est dans la nature. C'est dans la nature de trouver quelqu'un que nous pouvons dominer. Et ça va sur toutes les échelles de la société. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut trouver qui on trouve plus bas que nous. C'est dans notre nature humaine. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Il y a un politicien sage, il en existe, au moins il en existait dans le 19e siècle, qui a écrit ceci. Le pouvoir corrompre et le pouvoir absolu corrompre absolument. Vous savez, c'est dans la nature humaine, déchue, que cette tendance est là. Cette tendance est là. Lorsque Darlene et moi nous sommes arrivés dans la province il y a 37 ans, il fallait qu'on apprenne le français. Pour moi, après toutes ces années, portant la honte d'avoir le nom Gagnon et étant anglophone, j'étais pas loin, je vous dis. Mais Darlene est de Saskatchewan. Darlene a trouvé dans les prairies que elle réussissait pas très bien le français à l'école. Elle a laissé tomber parce qu'elle a dit « J'aurai jamais besoin de français. » Attention à ce que vous dites. Dieu nous joue des tours. Elle s'est mariée avec une Frenchie. Elle est venue au Québec. Il fallait qu'elle apprenne le français parce que nous étions appelés à œuvrer dans l'Église francophone. Et dans cette époque-là, le gouvernement fournissait pour les immigrants et les réfugiés des cours de français de base. Et Darlene était capable de s'intégrer dans un de ces cours. Puis nous sommes liés d'amitié avec un couple qui venait d'El Salvador. El Salvador était un pays qui vivait dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, des révolutions et des temps de terrorisme. Et le gouvernement et les autres qui étaient déstabilisants. Et moi, j'aime voyager à travers mes connaissances et je pose des questions. Puis j'ai posé les questions, pourquoi vous êtes au Canada? Puis dans leur réponse, j'ai découvert deux choses, mais ils ont dit que dans notre pays, à l'époque, les forces du gouvernement, ils font tout pour écraser les forces de révolte. S'ils trouvent des gens, ils les tuent. Puis les gens rebelles, ils font la même chose avec les gens qui soutiennent le gouvernement. Puis les gens qui veulent être neutres, les deux parties essaient de les tuer. Et nous faisions partie de ça, il fallait qu'on fuit parce qu'il n'y avait pas de place dans notre pays de rester neutre. Puis nous avons continué à raconter que dans leur pays, ils ont vu les changements des gouvernements. Les problèmes dans beaucoup de pays, quand les gens viennent en pouvoir, ils voient qu'ils ont le pouvoir de recevoir les fonds. Puis ils commencent à emmagasiner les fonds dans les banques à l'extérieur et ils commencent à être riches. Puis les gens du pays restent pauvres, opprimés. Puis les gens sont mal contents de ça, puis ils se plaignent. Puis à un moment donné, il y a un mouvement qui renverse le gouvernement. Puis ils ont dit qu'avec chaque gouvernement qui renverse les autres pour changer les choses, parce qu'ils critiquaient les gens au pouvoir qui étaient égoïstes, une fois qu'ils étaient là, les gens disent « Ah, c'est maintenant notre tour. » Plus que ça change, plus que ça reste de même. Le cœur humain, le pouvoir corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Jésus dit, vous savez, c'est comme ça dans le monde. Puis au verset, c'est un peu comme ça. Ouais. Dans le monde, c'est le sceptre. Si je suis monté, c'est comme une pyramide. Plus qu'on monte, plus que les gens en dessous de nous sont là pour nous servir. Même si on entre dans le pouvoir avec les meilleures intentions, la nature humaine, les avantages, tordre et corrompre la nature humaine. Et les gens, ça nous surprend, les gens qui étaient des radicaux, des gens des droits humains, tout ça, lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils deviennent des oppresseurs comme les autres. Comment ça se fait? On n'a pas à regarder plus loin que nous. C'est parce que dans un monde où Dieu n'est pas au centre, il faut qu'on se fasse une place. Il faut qu'on se fasse une place et tous les autres sont les concurrents. Et une fois qu'on a une place, maintenant il faut la garder jalousement. C'est comme ça dans le monde. Et Jésus dit au début du verset 26, « Il n'en sera pas de même parmi vous. » Dans le royaume, premièrement, ce n'est pas comme dans le monde. Et depuis 2000 ans, quand l'Église n'a pas compris ça, ça a amené des dégâts dans l'Église. Dans l'Église, c'est pas quand on monte au leadership à nous de tyranniser les autres. Les gens sont là, pas là pour nous servir. Les postes d'autorité sont pas là à des choses à garder pour nous. La deuxième chose que Jésus dit, dans les versets 26 et 27, il dit, les leaders dans le royaume visent le service. Les leaders dans le royaume visent le service. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Notez, je vais décortiquer ça un peu, mais notez que Jésus ne les reprend pas pour le désir d'être grand ou d'être premier. Parce que c'est dans notre nature. Mes chers amis, Dieu vous a créé, Dieu m'a créé pour être quelqu'un. La Bible nous laisse entendre qu'avant la fondation du monde, vous avez été dans la pensée de Dieu. Vous aussi. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là avec votre ADN, votre lignage, votre héritage, votre culture, par hasard. Dieu nous a voulu. Le péché nous a volé de cette réalité. Et on n'est pas au courant à quel point Dieu a un plan pour nous. Mais avec ça, l'idée, Dieu étant l'objet de notre amour, parce que nous sommes créés, nous sommes quelqu'un. Puis maintenant, avec la croix, c'est comme Dieu le souligne en surbrillance, « Je vous aime à tel point que j'envoie mon Fils unique mourir pour vous, pour réconcilier au plan de Dieu. » Vous n'avez pas besoin d'être les survivants, se débattant dans l'eau bouillante pour survivre, calant les autres pour que vous puissiez rester debout. Il y a la place pour tout le monde. Dieu veut que tout le monde parvienne à la maturité. Tout le monde accomplisse le plan qu'il a créé pour nous. Et c'est comme ça, c'est dans la nature de vouloir être quelqu'un, d'être grand et d'être premier. Mais le mot premier grand, les choses qui tordent à cause, Dieu n'est pas dans le portrait. Mais le désir est normal. La manière de parvenir selon le monde, ça, c'est pas normal selon Dieu. C'est le service. C'est le service. Et il ne faut pas manquer la force des paroles ici. Si vous voulez être grand, méga, vous soyez le serviteur. C'est le mot d'où on trouve le mot diacre, diaconat. C'est un service, tout le monde peut servir. C'est quand je rencontre un besoin, je suis un serviteur, une servante. Le service est focusé sur les personnes que nous desservons pour rencontrer leurs besoins. Mais il va plus loin, là. Il dit, si quelqu'un veut être le premier, si vous êtes vraiment numéro un, qu'il soit votre esclave. Et le mot « doulos », c'est le mot traduit ici par « esclave ». Dans la culture, un doulos, un esclave, n'avait aucune autre identité à part de son appartenance et son rôle dans la maison de son appartenance. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité à part de son service. Tandis, un diaconat, on sert, mais ce n'est pas nécessairement notre identité. Service avec un sourire. On a vu dans le monde, c'est comme ça le triangle. Hein? Mais dans le royaume, c'est l'inverse. Plus que vous êtes un bon serviteur, un grand serviteur, plus de monde que vous desservez. Moins de droits personnels parce que vous êtes en train de porter plus de monde. Notez que la première partie de la phrase, ça touche notre désir. Si quelqu'un veut être grand, numéro un, mais la deuxième partie, l'évaluation de service, c'est faite dans la communauté. Qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre esclave. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire ce que tout le monde veut? Non, non. Rappelez-vous, servir, c'est de rencontrer des besoins. Quand nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, nous sommes des serviteurs et des servantes avec nos dons envers les uns envers les autres, afin que l'assemblée grandisse, afin que la communauté grandisse. Les gens maturent. Il devient mature en Christ. C'est Éphésiens 4. Les dons sont là pour édifier, mais on est au service des autres. Et ce sont les autres qui peuvent témoigner. Ah, cette personne-là, quand elle exerce ses dons, ça m'a édifié, ça a rencontré le monde. Comme Église, on réalise que oui, votre service nous fait rapprocher de Dieu, fait grandir notre appréciation du monde, rencontre nos besoins. C'est les gens que nous desservons qui peuvent nous témoigner que nous sommes des serviteurs. Si Jésus a gardé ça, si vous voulez être grande, soyez le serviteur. Voilà, on est comme les gens qui ont le don de service, souvent, ils ne permettent pas que les autres gens qui ont le don de service à servir. Hein? Parce que quand tu as le don de service, un des côtés noirs de ça, c'est qu'il y a seulement ta façon de le faire. Hein? On sait quand il y a deux femmes qui sont dans la cuisine, qui ont le don de la cuisine, c'est difficile. Hein? C'est la même chose avec les parents. Hein? Parfois, les enfants grandissent dans les maisons, ils n'apprennent rien, ils n'ont jamais fait la vaisselle. Parce que il y a une personne avec le don de service, et le don de service se dit, s'il faut le faire, il faut le faire comme il faut. Et je suis le seul qui peut le faire comme il faut. Ça prend une grande humilité, un don de service, de vous aider à servir. Je veux vous aider à développer votre don de service, ça veut dire, ça ne va pas se faire comme je le veux. Peut-être ça va se faire autrement. peut-être ça ne va pas se faire parfaitement. Si vous êtes parent, vous savez que c'est le sacrifice que vous faites. Hein? Darlene et moi, on est des personnes qui aiment que tout soit en ordre. Mais on a fait le choix d'avoir plusieurs enfants. On a accepté qu'il n'y aura pas d'ordre. On voulait que le salon soit le salon, pas une salle de montre, un musée. On accepte de vivre dans le désarroi pour la joie de vivre en famille. Être serviteur, être servante, d'être l'instrument de Dieu qui regarde les besoins des autres et en régler mes besoins à la croix. Et mon focus est d'aider les autres. Au lieu de dire, tasse-toi, je veux t'aider. Et la personne vient t'aider, puis la personne part, et ça va te prendre une journée et demie de mettre les choses comme il faut. Hein? Parce que la personne n'a pas réellement aidé. La personne s'est ingérée dans votre affaire et ça vous a dérangé. Ça, ce n'est pas le service. Un service nous fait avancer, nous libère des choses. Donc, première chose, le leadership dans le royaume n'est pas comme le monde. Et deuxièmement, le leader du royaume vise le service. Et la troisième chose que Jésus va dire, c'est que le leader spirituel s'inspire du maître. C'est ce qu'on voit verset 28. J'espère que vous ne l'avez pas manqué. Hein? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce n'est pas une petite chose qu'on vient de lire. Qui croyez-vous est Jésus? À Césarée Philippe, Jésus a demandé à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » Les disciples, « Tu es le Messie, tu es le Maître, tu es Dieu lui-même. » Mais comment ça se fait qu'il marche à côté de moi? Il mange comme... Ils ont dû lutter avec ça. L'apôtre Paul parle de l'abaissement, l'humiliation de Dieu dans la personne de Jésus. En Philippiens 2, lorsqu'il nous exhorte à avoir le même cœur, la même humilité, il dit, prenez l'exemple de Jésus. Et en Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, il dit, lorsqu'il était en condition divine, il ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Est-ce que vous saisissez de qu'est-ce que c'était pour Dieu qui était de toute éternité le sujet des louanges, l'objet de l'adoration de tous les anges du ciel, de tous les saints qui ont gradué au ciel, de quitter le ciel, de mettre de côté ses pouvoirs divins pour s'habiller de la chair humaine, de vivre dans nos sandales, dans nos souffrances. Parmi le peuple le plus opprimé de l'époque et les pauvres des pauvres de ce peuple. De vivre, d'entrer dans le monde comme un bébé. Un bébé humain, c'est l'être qui est le plus vulnérable qui existe dans le monde. Hein? Des animaux, là, les bébés naissent, puis le jour même, ils sont debout. Hein? Ils cherchent la tétée. Les bébés humains, là, vulnérables, dépendants au bout. Quel point Jésus s'est humilié dans son service. C.S. Lewis, cet auteur intellectuel, athée, qui est devenu chrétien, qui a écrit beaucoup de livres en anglais, à comparer l'incarnation, l'humiliation de Christ. Il dit, si, c'est comme si vous et moi, nous devenions... Non, c'était... un escargot sans coquille. C'est dégueulasse qu'on les voit après une pluie, là. Partout. Mais ça décrit pas à quel point Jésus s'est humilié. Quand Paul dit, il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, en se revêtant de la chair humaine. Dieu lui-même en chair humaine, c'est un peu comme vous et moi, comme une image. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 13, nous amène à cette idée-là. Donc, j'ai peur de... Juste mettre le contexte. N'ayez pas peur, je vais terminer. Jean nous donne plusieurs chapitres qui traitent ce qui est arrivé dans la chambre haute, la veille de la mort de Christ. En Jean 13, il commence avec cette déclaration. Jésus, ayant aimé les siens, a mis la perfection de son amour pour eux. C'est l'introduction de chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, et jusqu'à la croix. Mais Jésus, après 3 ans et demi de ministère public, toujours entouré des centaines de personnes, on sait qu'il y avait des femmes qui les accompagnaient, qui nourrissaient la gang, qui prenaient soin de lui, mais lui, sachant que ce sera sa dernière nuit sur terre, voulait passer ses moments dans l'intimité avec ses 12. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jean, Pierre et Jean pour aller trouver le père de Jean-Marc, qui les amenait, montrer la chambre haute. Ils ont préparé la Pâque. Et voilà, 13 hommes autour de la table. 13 hommes avec des pieds sales. Rappelez-vous, quelle est la conversation, quelle est la préoccupation des 12? Qui parmi eux sera le plus grand dans le royaume? Israël et Palestine, même dans l'époque, c'était un pays poussiéreux. Marcher nu-pied, marcher sans sandales, ça veut dire que nos pieds sont... On arrive à la maison avec des couches de boue et de poussière. Une règle d'hospitalité, c'est que lorsqu'on reçoit les convives, on lave les pieds pour qu'ils soient confortables. Mais attention, pour montrer à quel point c'est un geste pour nous, oh, ça c'est ordinaire, on va le faire. Mais dans un foyer qui avait des esclaves, c'était l'esclave le plus bas dans l'échelle dont la tâche de laver les pieds revenait. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi les 13 étaient là avec des pieds sales? Quand, et surtout, peut-être on ne comprend pas ça dans l'Occident, mais dans une culture de honte, quand vous vous prétendez être le plus grand, on est là, là, Pierre, Jean, Jacques, on est le plus grand, on sait que quelqu'un doit laver les pieds, mais si je lave les pieds de Jean-François, ça va dire que je suis confessé. Donc, moi, je ne vais pas confesser. Lui, ne va pas confesser. Marc ne va pas le confesser. On est là, tout le monde autour de la table. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus se lève de la table, enlève sa robe, prend la serviette, prend le bassin et commence à laver les pieds de ses apôtres. Et c'est intéressant, les récits nous disent « il arrive à Pierre ». Ça veut dire qu'il n'a pas commencé avec Pierre. Donc Pierre est là, il regarde, Jésus lave les pieds de Marc, lave les pieds de mon frère, ça... Pierre est vite là. Il est théologien, il comprend quelque chose. Puis Jésus arrive à lui, puis il dit, « Non, c'est pas correct ça. Tu es le maître, tu ne me laves pas des pieds. » Je vous prétends que Pierre n'a pas tout à fait compris. Il a compris intellectuellement que ce n'était pas correct. S'il a bien compris, il a pris le bassin et dit, « Jésus, laisse-moi continuer. » Souvent, on peut comprendre les choses théologiquement, mais on n'est pas prêts, nous autres, on n'a pas l'esprit de serviteur, on n'est pas prêts à entrer dans le ministère que le Seigneur a. Mais Jésus, avant de donner la leçon, et ce matin, je vais vous donner, il répond, il donne 2 points théologiques qui sont entre parenthèses, je vous donne gratuit ce matin. Okay? Mais ils sont importants. D'abord, Jésus dit à Pierre, « Si moi, je te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Ce que Jésus est en train de dire, si vous n'êtes pas lavé par moi, vous n'êtes pas mon frère et ma sœur. Vous n'avez pas de part avec moi. Il faut que nous soyons lavés par Dieu. C'est certain que c'est avant la croix, donc il ne parlait pas de la lavée de son sang, mais... OK, Pierre, toujours vite, il dit, OK, je comprends. OK, dans ce cas-là, donne-moi un bain. Vous avez creusé dans... Il dit, dans ce cas-là, lave mes mains et ma tête. Autrement dit, lave-moi complètement. Jésus dit la deuxième chose, je vous ai tous lavés déjà par ma parole. Donc, vous n'avez pas besoin que de te laver les pieds. Mes chers amis, si nous sommes lavés, nos péchés passés sont tous classés. Nous n'avons que de se faire laver pour les péchés d'aujourd'hui. Nous avons besoin de se faire laver les pieds. Voici, fermez la parenthèse, prendre ces deux leçons. La leçon du texte, c'est que Jésus, après avoir fait ça, il s'est revêtu, a pris sa place à la table, puis il part. Maintenant, la leçon. Verset 13, Jean 13, il dit, « Vous m'appelez maître. » Laisse-moi chercher parce que je n'ai pas mis le verset 13 dans mon texte ici. Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et seigneur, ce que vous, et vous dites bien, car je le suis. Jésus savait son identité. Jésus était bien dans sa peau humaine, comme fils de Dieu. Quand vous savez qui vous êtes, il n'y a aucun service qui peut vous enlever quoi que ce soit sur votre identité. L'autre côté du médaillon, il n'y a aucun service qui peut ajouter à votre identité non plus. Mais Jésus dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Je le suis. En vous lavant les pieds, je n'ai pas nié ça. Maintenant, la leçon, c'est que si moi, votre Maître, votre Seigneur, a lavé vos pieds, vous devez laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné un exemple. Heureux serez-vous de le faire. Et dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus dit, « Moi, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Mes chers amis, dans le royaume de Dieu, dans cette époque, nous sommes appelés à nous joindre à Jésus comme serviteurs et servantes de Dieu dans sa mission. Nous sommes appelés à servir, commençant dans la maison de Dieu, en développant nos dons, le corps de Christ va s'édifier et on va se répandre pour de toucher notre monde en servant le monde au nom de Dieu. Vite, récapitulation. Dans le royaume, le leadership, ce n'est pas comme dans le monde. C'est le contraire. Dans le monde, je suis le boss, vous êtes là pour me servir. Dans le royaume, je suis le serviteur pour vous servir. Dans le royaume, les leaders sont des leaders serviteurs. Et le focus, c'est de suivre le Christ. Pas juste tirer de son exemple dans les, là, mais de suivre son exemple présent. Où est-ce que Jésus me mène à servir maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Rappelez-vous qu'à un moment donné, Jésus donne la parabole que du jugement dernier, là où les gens seront séparés, certains à sa gauche, certains à sa droite, ils vont dire à ceux à sa droite, « Venez entrer dans la joie de ton Père, vous qui m'avez visité en prison, m'avez soigné, etc., etc. » Les gens vont dire, « Quand est-ce qu'on a fait ça à toi? » Lorsque vous avez fait ça, le moindre d'entre vos frères et sœurs. Et la condamnation pour ceux qui ne l'ont pas faite, c'est le même. Jésus est présent. Jésus, l'image de Dieu est dans chaque être humain. Puis si les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas connaître le bonheur pour lequel ils sont créés. Jésus vous a mis ensemble. Ce n'est pas un hasard. Il y a des dons que Dieu veut qu'ils deviennent des instruments de sa grâce pour qu'Oasis devienne véritablement un oasis de sainteté, de paix, de salut, de joie. Et vous êtes la clé. Jésus en nous. Que Dieu donne à Oasis des frères et sœurs qui visent le service, qui aspirent à imiter le Maître. Et que vous, Dieu vous donne le courage de ne mettre jamais une personne en autorité, en responsabilité dans l'Église, qui n'a pas le témoignage d'être un leader serviteur. Et Dieu va vous bénir. Dieu va se manifester parce que le leader serviteur, Jésus-Christ, sera pleinement visible dans vos entretiens, dans vos échanges et dans votre ministère. Que Dieu vous bénisse.